Chapitre 5. L'expérience vécue du noir. Sale nègre, ou simplement, tiens, un nègre. J'arrivais dans le monde, soucieux de faire lever un sens aux choses, mon âme pleine du désir d'être à l'origine du monde, et voici que je me découvrais objet au milieu d'autres objets. Enfermé dans cette objectivité écrasante, j'implorais autrui. Son regard libérateur, glissant sur mon corps devenu soudain nul d'aspérité, me rend une légèreté que je croyais perdue et, m'absentant du monde, me rend au monde. Mais là-bas, juste à contre-pente, je bute, et l'autre, par geste, attitude, regard, me fixe dans le sens où l'on fixe une préparation par un colorant. Je m'emportais, exigeais une explication. Rien n'y fit, j'explosais. Voici les menus morceaux par un autre moi réunis. Tant que le noir sera chez lui, il n'aura pas, sauf à l'occasion, de petites luttes intestines, à éprouver son être pour autrui. Il y a bien le moment de l'être pour l'autre, dont parle Hegel, mais toute ontologie est rendue irréalisable dans une société colonisée et civilisée. Il semble que cela n'ait pas suffisamment retenu l'attention de ceux qui ont écrit sur la question. Il y a dans la Weltanschauung d'un peuple colonisé une impureté, une tare, qui interdit toute explication ontologique. Peut-être nous objectera-t-on qu'il en est ainsi de tout individu, mais c'est se masquer un problème fondamental. L'ontologie, quand on a admis une fois pour toutes qu'elle laisse de côté l'existence, ne nous permet pas de comprendre l'être du noir, car le noir n'a pas à être noir, mais à l'être en face du blanc. Certains se mettront en tête de nous rappeler que la situation est à double sens. Nous répondons que c'est faux, le noir n'a pas de résistance ontologique aux yeux du blanc. Les nègres, du jour au lendemain, ont eu deux systèmes de référence par rapport auxquels il aura fallu se situer, leur métaphysique, ou, moins prétentieusement, leurs coutumes et les instances auxquelles elles renvoyaient, étaient abolies parce qu'elles se trouvaient en contradiction avec une civilisation qu'ils ignoraient et qui leur en imposait. Le noir, chez lui, au XXe siècle, ignore le moment où son infériorité passe par l'autre. Sans nul doute, il nous est arrivé de discuter du problème noir avec des amis, ou plus rarement avec des noirs américains. Ensemble, nous protestions et affirmions l'égalité des hommes devant le monde. Il y avait aussi aux Antilles ce petit hiatus qui existe entre la bécaille, la mulâtraille et la négraille. Mais nous nous contentions d'une compréhension intellectuelle de ces divergences. En fait, ça n'était pas dramatique, et puis il nous fut donné d'affronter le regard blanc. Une lourdeur inaccoutumée nous oppressa. Le véritable monde nous disputait notre part. Dans le monde blanc, l'homme de couleur rencontre des difficultés dans l'élaboration de son schéma corporel. La connaissance du corps est une activité uniquement négatrice. C'est une connaissance en troisième personne. Tout autour du corps règne une atmosphère d'incertitude certaine. Je sais que si je veux fumer, il me faudra étendre le bras droit et saisir le paquet de cigarettes qui se trouve à l'autre bout de la table. Les allumettes, elles, sont dans le tiroir de gauche. Il faudra que je me recule légèrement. Et tous ces gestes, je les fais non par habitude, mais par une connaissance implicite, lente construction de mon moi en tant que corps au sein d'un monde spatial et temporel. Tel semble être le schéma. Il ne s'impose pas à moi. C'est plutôt une structuration définitive du moi et du monde, définitive car il s'installe entre mon corps et le monde une dialectique effective. Depuis quelques années, des laboratoires ont projeté de découvrir un sérum de dénigrification. Des laboratoires les plus sérieusement du monde ont rincé leurs éprouvettes, réglé leurs balances et entamé des recherches qui permettront aux malheureux nègres de se blanchir, et ainsi de ne plus supporter le poids de cette malédiction corporelle. J'avais créé au-dessus du schéma corporel un schéma historico-racial. Les éléments que j'avais utilisés ne m'avaient pas été fournis par des résidus de sensations et perceptions d'ordre surtout tactile, vestibulaire, synesthésique et visuel, mais par l'autre, le blanc, qui m'avait tissé de mille détails, anecdotes, récits. Je croyais avoir à construire un moi physiologique, à équilibrer l'espace, à localiser des sensations, et voici que l'on me réclamait un supplément. Tiens, un nègre. C'était un stimulus extérieur qui me chiquenaudait en passant. J'esquissais un sourire. Tiens, un nègre, c'est vrai, je m'amusais. Tiens, un nègre. Le cercle peu à peu se resserrait. Je m'amusais ouvertement. Maman regarde le nègre. J'ai peur. Peur, peur. Voilà qu'on se mettait à me craindre. Je voulais m'amuser jusqu'à m'étouffer, mais cela m'était devenu impossible. Je ne pouvais plus, car je savais déjà qu'existaient des légendes, des histoires, l'histoire et surtout l'historicité que m'avait enseigné Jasper. Alors, le schéma corporel, attaqué en plusieurs points, s'écroula, cédant la place à un schéma épidermique racial. Dans le train, il ne s'agissait plus d'une connaissance de mon corps en troisième personne, mais en triple personne. Dans le train, au lieu d'une, on me laissait deux, trois places. Déjà, je ne m'amusais plus. Je ne découvrais point de coordonnées fébriles du monde. J'existais en triple, j'occupais de la place, j'allais à l'autre. Et l'autre, évanescent, hostile, mais non opaque, transparent, absent, disparaissait. La nausée. J'étais tout à la fois responsable de mon corps, responsable de ma race, de mes ancêtres. Je promenais sur moi un regard objectif, découvris ma noirceur, mes caractères ethniques, et me défoncèrent le tympan, l'anthropologie, l'arriération mentale, le fétichisme, les tares raciales, les négriers, et surtout, Yabombanania. Ce jour-là, désorienté, incapable d'être dehors avec l'autre, le blanc, qui, impitoyable, m'emprisonnait, je me portais loin de mon être là, très loin, me constituant objet. Qu'était-ce pour moi, sinon un décollement, un arrachement, une hémorragie qui caillait du sang noir sur tout mon corps? Pourtant, je ne voulais pas cette reconsidération, cette thématisation. Je voulais tout simplement être un homme parmi d'autres hommes. J'aurais voulu arriver, lisse et jeune, dans un monde neutre et ensemble édifié. Mais je refusais toute tétanisation affective. Je voulais être homme. Rien qu'homme. D'aucuns me reliaient aux ancêtres miens, esclavagisés, lynchés. J'ai décidé d'assumer. C'est à travers le plan universel de l'intellect que je comprenais cette parenté interne. J'étais petit-fils d'esclave, au même titre que le président Lebrun l'était de paysan corvéable et taillable. Au fond, l'alerte se dissipait assez rapidement. En Amérique, des nègres sont mis à part. En Amérique du Sud, on fouette dans les rues et l'on mitraille les grévistes nègres. En Afrique occidentale, le nègre est une bête. Et là, tout près de moi, juste à côté, ce camarade de faculté, originaire d'Algérie, qui me dit, tant qu'on fera de l'arabe un homme comme nous, aucune solution ne sera viable. Vois-tu, mon cher, le préjugé de couleur, je ne connais pas cela. Mais comment donc entrer, monsieur? Chez nous, le préjugé de couleur n'existe pas. Parfaitement, le nègre est un homme comme nous. Ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il est moins intelligent que nous. J'ai eu un camarade sénégalais au régiment, il était très fin. Où me situer? Ou, si vous préférez, où me fourrer? Martiniquais, originaire de nos vieilles colonies, où me cacher? Regarde le nègre, maman, un nègre. Chut, il va se fâcher. Ne faites pas attention, monsieur. Il ne sait pas que vous êtes aussi civilisé que nous. Mon corps me revenait étalé, disjoint, rétamé, tout endeuillé dans ce jour blanc d'hiver. Le nègre est une bête. Le nègre est mauvais. Le nègre est méchant. Le nègre est laid. Tiens, un nègre, il fait froid. Le nègre tremble. Le nègre tremble parce qu'il a froid. Le petit garçon tremble parce qu'il a peur du nègre. Le nègre tremble de froid. Ce froid qui vous tord les os. Le beau petit garçon tremble parce qu'il croit que le nègre tremble de rage. Le petit garçon blanc se jette dans les bras de sa mère. Maman, le nègre va me manger. Alentour, le blanc. En haut, le ciel s'arrache le nombril. La terre crisse sous mes pieds et un champ blanc, blanc. Toute cette blancheur qui me calcine. Je m'assieds au coin du feu et je découvre ma livrée. Je ne l'avais pas vue. Elle est effectivement laide. Je m'arrête car qui me dira ce qu'est la beauté? Où me fourrer désormais? Je sentais monter des innombrables dispersions de mon être, un afflux aisément reconnaissable. J'allais me mettre en colère. Depuis longtemps, le feu était mort et de nouveau le nègre tremblait. Regarde, il est beau ce nègre. Le beau nègre vous emmerde, madame. La honte lui orna le visage. Enfin, j'étais libéré de ma rumination. Du même coup, je réalisais deux choses. J'identifiais mes ennemis et je créais du scandale. Comblé, on allait pouvoir s'amuser. Le champ de bataille délimité, j'entrais en lice. Comment? Alors que j'oubliais, pardonnais et ne désirais qu'aimer, on me renvoyait comme une gifle en plein visage mon message. Le monde blanc, seul, honnête, me refusait toute participation. D'un homme, on exigeait une conduite d'homme, de moi, une conduite d'homme noir, ou du moins une conduite de nègre. Je hélais le monde et le monde m'amputait de mon enthousiasme. On me demandait de me confiner, de me rétrécir. Ils allaient voir. Je les avais pourtant mis en garde. L'esclavage, on n'en parlait plus, un mauvais souvenir. La prétendue infériorité, une galéjade dont il valait mieux rire. J'oubliais tout, mais à condition que le monde ne me dérobât plus son flanc. J'avais à essayer mes incisives, je les sentais robustes, et puis, comment? Alors que moi j'avais toutes les raisons de haïr, détester, on me rejetait, alors que j'aurais dû être supplié, sollicité, on me refusait toute reconnaissance, je décidai, puisqu'il m'était impossible de partir d'un complexe inné, de m'affirmer en tant que noir. Puisque l'autre hésitait à me reconnaître, il ne restait plus qu'une solution, me faire connaître. Jean-Paul Sartre, dans Réflexion sur la question juive, écrit « Ils, les juifs, se sont laissés empoisonner par une certaine représentation que les autres ont d'eux et ils vivent dans la crainte que leurs actes ne s'y conforment. Ainsi, pourrions-nous dire que leurs conduites sont perpétuellement surdéterminées de l'intérieur. » Page 123. Toutefois, le juif peut être ignoré dans sa juiverie, il n'est pas intégralement ce qu'il est. On espère, on attend, ses actes, son comportement décide en dernier ressort, c'est un blanc, et, hormis quelques traits assez discutables, il lui arrive de passer inaperçu. Il appartient à la race de ceux qui de tout temps ont ignoré l'anthropologie. Quelle idée aussi de dévorer son père, c'est bien fait, on n'a qu'à ne pas être nègre. Bien entendu, les juifs sont brimés, que dis-je, ils sont pourchassés, exterminés, enfournés, mais ce sont là petites histoires familiales. Le juif n'est pas aimé à partir du moment où il est dépisté. Mais avec moi, tout prend un visage nouveau. Aucune chance ne m'est permise, je suis surdéterminé de l'extérieur. Je ne suis pas l'esclave de l'idée que les autres ont de moi, mais de mon apparaître. J'arrive lentement dans le monde, habitué à ne plus prétendre au surgissement. Je m'achemine par reptation. Déjà les regards blancs, les seuls vrais, me dissèquent. Je suis fixé, ayant accommodé leur microtome, ils réalisent objectivement des coupes de ma réalité. Je suis trahi, je sens, je vois dans ces regards blancs que ce n'est pas un nouvel homme qui entre, mais un nouveau type d'homme, un nouveau genre, un nègre, quoi. Je me glisse dans les coins, rencontrant de mes longues antennes les axiomes éparses à la surface des choses. Le linge du nègre sent le nègre, les dents du nègre sont blanches, les pieds du nègre sont grands, la large poitrine du nègre. Je me glisse dans les coins, je demeure silencieux, j'aspire à l'anonymat, à l'oubli. Tenez, j'accepte tout, mais qu'on ne m'aperçoive plus. Tiens, viens que je te présente à mon camarade noir. Aimé Césaire, homme noir, agrégé de l'université. Marianne Anderson, la plus grande chanteuse noire. Le docteur Cobb, l'inventeur du sang blanc, est un nègre. Tiens, dis bonjour à mon ami martiniquais. Fais attention, il est très susceptible. La honte. La honte est le mépris de moi-même, la nausée, quand on m'aime, on me dit que c'est malgré ma couleur. Quand on me déteste, on ajoute que ce n'est pas à cause de ma couleur. Ici ou là, je suis prisonnier du cercle infernal. Je me détourne de ces scrutateurs, de l'avant déluge, et je m'agrippe à mes frères, nègres comme moi. Horreur, ils me rejettent. Eux sont presque blancs. Et puis ils vont épouser une blanche. Ils auront des enfants légèrement bruns. Qui sait, petit à petit peut-être. J'avais rêvé. Voyez-vous, monsieur, je suis l'un des plus négrophiles de Lyon. L'évidence était là, implacable. Ma noirceur était là, dense et indiscutable. Et elle me tourmentait, elle me pourchassait, m'inquiétait, m'exaspérait. Les nègres sont des sauvages, des abrutis, des analphabètes, mais moi, je savais que dans mon cas, ces propositions étaient fausses. Il y avait un mythe du nègre qu'il fallait démolir coûte que coûte. On n'était plus au temps où l'on s'émerveillait devant un nègre curé. Nous avions des médecins, des professeurs, des hommes d'État. Oui, mais dans ces cas, persistait quelque chose d'insolite. Nous avons un professeur d'histoire sénégalais, il est très intelligent. Notre médecin est noir, il est très doux. C'était le professeur nègre, le médecin nègre, moi qui commençais à me fragiliser, je frémissais à la moindre alarme. Je savais par exemple que si le médecin commettait une erreur, c'en était fini de lui et de tous ceux qui le suivraient. Qu'attendre en effet d'un médecin nègre? Tant que tout allait bien, on le portait au nu. Mais gare, pas de bêtises à aucun prix. Le médecin noir ne saura jamais à quel point sa position avoisine le discrédit. Je vous le dis, j'étais emmuré. Ni mes attitudes policées, ni mes connaissances littéraires, ni ma compréhension de la théorie des quantas ne trouvaient grâce. Je réclamais, j'exigeais des explications. Doucement, comme on parle à un enfant, on me révéla l'existence d'une certaine opinion qu'adoptaient certaines personnes, mais, ajoutait-on, il fallait espérer la rapide disparition qu'était-ce le préjugé de couleur. Le préjugé de couleur n'est rien d'autre qu'une haine irraisonnée d'une race pour une autre, le mépris des peuples forts et riches pour ceux qu'ils considèrent comme inférieurs à eux-mêmes, puis l'amer ressentiment de ceux contraints à la sujétion et auxquels il est souvent fait injure. Comme la couleur est le signe extérieur le mieux visible de la race, elle est devenue le critère sous l'angle duquel on juge les hommes sans tenir compte de leurs acquis éducatifs et sociaux. Les races à peau claire en sont venues à mépriser les races à peau sombre, et celles-ci se refusent à consentir plus longtemps à la condition effacée qu'on entend leur imposer. J'avais bien lu, c'était de la haine, j'étais haï, détesté, méprisé, non pas par le voisin d'en face ou le cousin maternel, mais par toute une race. J'étais en butte à quelque chose d'irraisonné. Les psychanalystes disent que pour le jeune enfant, il n'y a rien de plus traumatisant que le contact du rationnel. Je dirais personnellement que pour un homme qui n'a comme arme que la raison, il n'y a rien de plus névrotique que le contact de l'irrationnel. Je sentis naître en moi des lames de couteau. Je pris la décision de me défendre. En bon tacticien, je voulus rationaliser le monde, montrer aux blancs qu'il était dans l'erreur. Chez le juif, dit Jean-Paul Sartre, il y a une sorte d'impérialisme passionné de la raison, car il ne veut pas seulement convaincre qu'il est dans le vrai. Son but est de persuader ses interlocuteurs qu'il y a une valeur absolue et inconditionnée du rationalisme. Il se considère comme un missionnaire de l'universel. En face de l'universalité de la religion catholique, dont il est exclu, il veut établir la catholicité, du rationnel instrument pour atteindre le vrai et le lien spirituel entre les hommes. Et ajoute l'auteur, s'il s'est trouvé des juifs pour faire de l'intuition la catégorie fondamentale de leur philosophie, leur intuition ne ressemble en rien à l'esprit de finesse pascalien, et c'est cet esprit de finesse incontestable et mouvant, fondé sur 1000 perceptions imperceptibles, qui paraît aux juifs son pire ennemi. Quant à Bergson, sa philosophie offre l'aspect curieux d'une doctrine anti-intellectualiste entièrement bâtie par l'intelligence la plus raisonneuse et la plus critique. C'est en argumentant qu'il établit l'existence d'une durée pure, d'une intuition philosophique, cette intuition même qui découvre la durée ou la vie. Elle est universelle en ce que chacun peut la pratiquer et elle porte sur l'universel puisque ses objets peuvent être nommés et conçus. Avec ardeur, je me mis à inventorier, à sonder l'entourage. Au gré des temps, on avait vu la religion catholique justifier puis condamner l'esclavage et les discriminations. Mais, en ramenant le tout à la notion de dignité humaine, on éventrait le préjugé. Les scientifiques, après beaucoup de réticences, avaient admis que le nègre était un être humain. In vivo et in vitro, le nègre s'était révélé analogue au blanc. Même morphologie, même histologie, la raison s'assurait la victoire sur tous les plans. Je réintégrais les assemblées, mais je dus déchanter. La victoire jouait au chat et à la souris. Elle me narguait, comme disait l'autre, quand je suis là, elle n'y est pas, quand elle est là, je n'y suis plus. Sur le plan de l'idée, on était d'accord, le nègre est un être humain, c'est-à-dire, ajoutaient les moins convaincus, qu'il a comme nous le cœur à gauche. Mais le blanc, sur certaines questions, demeurait intraitable. À aucun prix, il ne voulait d'intimité entre les races, car, on le sait, les croisements entre races différentes abaissent le niveau physique et mental. Jusqu'à ce que nous ayons une connaissance mieux fondée des effets du croisement des races, nous ferions mieux d'éviter les croisements entre races très éloignées. Quant à moi, je saurais bien comment réagir, et, en un sens, si j'avais à me définir, je dirais que j'attends, j'interroge les alentours, j'interprète tout à partir de mes découvertes, je suis devenu sensitif. Au début de l'histoire que les autres m'ont faite, on avait placé bien en évidence le socle de l'anthropologie pour que je m'en souvienne. On décrivit sur mes chromosomes quelques gènes plus ou moins épais représentant le cannibalisme. À côté des sex-linked, on découvrait des racial-linked, une honte cette science. Mais je comprends ce mécanisme psychologique, car tout le monde le sait, il n'est que psychologique ce mécanisme. Il y a 2 siècles, j'étais perdu pour l'humanité, esclave à jamais, et puis des hommes sont venus, déclarant que tout cela n'avait que trop duré, ma ténacité a fait le reste, j'étais sauvé du déluge civilisateur, je me suis avancé. Trop tard, tout est prévu, trouvé, prouvé, exploité. Mes mains nerveuses ne ramènent rien. Le gisement est épuisé, trop tard. Mais là aussi, je veux comprendre. Depuis le temps que certains se plaignaient de venir trop tard et que tout était dit, il semble exister une nostalgie du passé. Serait-ce ce paradis perdu des origines dont parle Otto Rank? Combien de ceux-là, fixés, semble-t-il, à l'utérus du monde, ont consacré leur vie à l'intellection des oracles de Delphes ou se sont efforcés de retrouver le périple d'Ulysse. Les pans spiritualistes, voulant prouver l'existence d'une âme chez les animaux, emploient l'argument suivant: un chien se couche sur la tombe de son maître et y meurt de faim. Il revient à Janet d'avoir montré que le dit chien, contrairement à l'homme, n'était tout simplement pas capable de liquider le passé. On parle de grandeur grecque, dit Artaud, mais, ajoute-t-il, si le peuple d'aujourd'hui ne comprend plus les goéphores d'Eschyle, c'est Eschyle qui a tort. C'est au nom de la tradition que les antisémites valorisent leur point de vue. C'est au nom de la tradition, de ce long passé d'histoire, de cette parenté sanguine avec Pascal et Descartes, qu'on dit aux Juifs, vous ne sauriez trouver place dans la communauté. Dernièrement, un de ces bons Français déclarait, dans un train où j'avais pris place, que les vertus vraiment françaises subsistent et la race est sauvée. À l'heure actuelle, il faut réaliser l'union nationale, plus de lutte intestine face aux étrangers et, se tournant vers mon coin, quel qu'il soit. Il faut dire à sa décharge qu'il puait le gros rouge. S'il l'avait pu, il m'aurait dit que mon sang d'esclave libéré n'était pas capable de s'affoler au nom de Villon ou de Taine. Une honte. Le juif et moi, non content de me racialiser par un coup heureux du sort, je m'humanisais. Je rejoignais le juif, frère de malheur. Une honte. De prime abord, il peut sembler étonnant que l'attitude de l'antisémite s'apparente à celle du négrophobe. C'est mon professeur de philosophie, d'origine antillaise, qui me le rappelait un jour. Quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous, et je pensais qu'il avait raison universellement, entendant par là que j'étais responsable dans mon corps et dans mon âme du sort réservé à mon frère. Depuis lors, j'ai compris qu'il voulait tout simplement dire un antisémite est forcément négrophobe. Vous arrivez trop tard, beaucoup trop tard. Il y aura toujours un monde blanc entre vous et nous. Cette impossibilité pour l'autre de liquider une fois pour toutes le passé. On comprend que, devant cette ankylose affective du blanc, j'ai pu décider de pousser mon cri nègre. Petit à petit, lançant çà et là des pseudopodes, j'ai sécrété une race. Et cette race tituba sous le poids d'un élément fondamental. Quel est-il? Le rythme. Écoutez Senghor, notre chantre. C'est la chose la plus sensible et la moins matérielle. C'est l'élément vital par excellence. Il est la condition première et le signe de l'art. Comme la respiration de la vie, la respiration qui se précipite ou ralentit devient régulière ou spasmodique, suivant la tension de l'être, le degré et la qualité de l'émotion. Tel est le rythme primitivement dans sa pureté. Tel il est dans les chefs-d'œuvre de l'art nègre, particulièrement la sculpture. Il est le fait d'un thème, forme sculpturale, qui s'oppose à un thème frère, comme l'inspiration à l'expiration, et qui se reprend. Ce n'est pas la symétrie qui engendre la monotonie. Le rythme est vivant, il est libre. C'est ainsi que le rythme agit sur ce qu'il y a de moins intellectuel en nous, despotiquement, pour nous faire pénétrer dans la spiritualité de l'objet. Et cette attitude d'abandon, qui est nôtre, est elle-même rythmique. Avais-je bien lu? Je relus à coups redoublés, de l'autre côté du monde blanc, une frénétique culture nègre me saluait. Sculpture nègre, je commençais à rougir d'orgueil. Était-ce là le salut? J'avais rationalisé le monde, et le monde m'avait rejeté au nom du préjugé de couleur, puisque sur le plan de la raison, l'accord n'était pas possible. Je me rejetais vers l'irrationalité. À charge, au blanc d'être plus irrationnel que moi, j'avais, pour les besoins de la cause, adopté le processus régressif, mais il restait que c'était une arme étrangère. Ici, je suis chez moi, je suis bâti d'irrationnel, je patauge dans l'irrationnel, irrationnel jusqu'au cou, et maintenant, vibre ma voix. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ils savent, en ses moindres recoins, le pays de souffrance, ceux qui n'ont connu de voyage que de déracinement, ceux qui se sont assouplis aux agenouillements, ceux qu'on domestiqua et christianisa, ceux qu'on inocula d'abâtardissement. Oui, tous ceux-là sont mes frères, une fraternité âpre nous agrippe pareillement. Après avoir affirmé la thèse mineure, par-dessus bord, je hèle autre chose, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre, gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre, silo où se préserve et mûrit ce que la terre a de plus terre, ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité, ruée contre la clameur du jour, ma négritude n'est pas une taie d'eau morte, sur l'œil mort de la terre, ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale, elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel, elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Aimé Césaire. Et y a le tam-tam baragouine, le message cosmique, seul le nègre est capable de le transmettre, en déchiffrer le sens, l'apporter, à cheval sur le monde, les talons vigoureux contre les flancs du monde, je lustre l'encolure du monde, tel le sacrificateur, l'entre-deux-yeux de la victime. Mais il s'abandonne, saisi à l'essence de toute chose, ignorant des surfaces, mais saisi par le mouvement de toute chose, insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde, véritablement les fils aînés du monde, poreux à tous les souffles du monde air, fraternel de tous les souffles du monde, lit cendrin de toutes les eaux du monde, étincelle du feu sacré du monde, chair de la chair du monde, palpitant du mouvement même du monde. Sang, sang, naissance, vertige du devenir, aux trois quarts abîmés dans l'ahurissement du jour, je me sentis rougir de sang. Les artères du monde, bouleversées, arrachées, déracinées, se sont tournées vers moi, et elles m'ont fécondé. Sang, sang, tout notre sang ému par le cœur mâle du soleil. Le sacrifice avait servi de moyen terme entre la création et moi. Je retrouvais non plus les origines, mais l'origine. Toutefois, il fallait se méfier du rythme, de l'amitié terre-mère, ce mariage mystique, charnel, du groupe et du cosmos. Dans la vie sexuelle en Afrique noire, travail riche en observations, de Pédral laisse entendre qu'il y a toujours en Afrique, quel que soit le domaine considéré, une certaine structure magico-sociale, et, ajoute-t-il, tous ces éléments sont ceux que l'on retrouve à une échelle plus vaste encore en matière de société secrète. Dans la mesure, d'ailleurs, où les circoncis, les excisés, opérés à l'adolescence, ne doivent, sous peine de mort, divulguer aux non-initiés ce qu'ils ont subi. Et dans la mesure où l'initiation à une société secrète fait toujours appel à des actes d'amour sacré, il y a lieu de terminer en considérant la circoncision, l'excision et les rites qu'ils illustrent comme constitutifs de sociétés secrètes mineures. Je marche sur des chardons blancs, des nappes d'eau menacent mon âme de feu. Face à ces rites, je redouble d'attention. Magie noire, orgie, sabbat, cérémonie païenne, gris-gris. Le coït est l'occasion d'invoquer les dieux de la fratrie. C'est un acte sacré, pur, absolu, favorisant l'invention de forces invisibles. Que penser de toutes ces manifestations, de toutes ces initiations, de toutes ces opérations? De partout me revient l'obscénité de danse, de proposition. Tout près de moi retentit un chant. Avant, nos cœurs étaient très chauds. Maintenant, ils sont froids. Nous ne songeons plus qu'à l'amour. De retour au village, quand nous rencontrons un gros phallus, ah, que nous ferons bien l'amour quand notre sexe sera sec et propre. Le sol, tout à l'heure, encore coursier, maîtrisé, se met à rigoler. Sens des vierges, ces nymphomanes. Magie noire, mentalité primitive, animisme, érotisme animal, tout cela renflue vers moi. Tout cela caractérise des peuples n'ayant pas suivi l'évolution de l'humanité. Il s'agit là, si l'on préfère, d'humanité au rabais. Parvenu à ce point, j'hésitais longtemps avant de m'engager. Les étoiles se firent agressives. Il me fallait choisir. Que dis-je? Je n'avais pas le choix. Oui, nous sommes, les nègres, arriérés, simples, libres dans nos manifestations. c'est que le corps pour nous n'est pas opposé à ce que vous appelez l'esprit. Nous sommes dans le monde et vive le couple homme-terre. D'ailleurs, nos hommes de lettres m'aident à vous convaincre. Votre civilisation blanche néglige les richesses fines, la sensibilité, écoutez, sensibilité émotive. L'émotion est nègre comme la raison est laine. Ô Kyrie de tous les souffles, âme de plein air abattue, des vents ou d'où le fruit souvent tombe avant maturité. Oui, en un sens, le nègre aujourd'hui est plus riche de dons que d'œuvres, mais l'arbre plonge ses racines dans la terre, le fleuve coule profond, charriant des paillettes précieuses, et, chante le poète afro-américain Langston Hughes, j'ai connu des fleuves, d'antiques, de sombres fleuves, mon âme est devenue profonde comme les fleuves profonds. La nature même de l'émotion, de la sensibilité du nègre, d'autre part, explique l'attitude de celui-ci devant l'objet perçu avec une telle violence essentielle. C'est un abandon qui devient besoin, attitude active de communion, voire d'identification, pour peu que soit forte l'action, j'allais dire la personnalité de l'objet, attitude rythmique que l'on retienne à la mort. Et voici le nègre réhabilité, debout à la barre, gouvernant le monde de son intuition. Le nègre retrouvé, ramassé, revendiqué, assumé, et c'est un nègre, non pas. Ce n'est point un nègre, mais le nègre alertant les antennes fécondes du monde, planté dans l'avant-scène du monde, aspergeant le monde de sa puissance poétique, poreux à tous les souffles du monde. J'épouse le monde, je suis le monde, le blanc n'a jamais compris cette substitution magique. Le blanc veut le monde, il le veut pour lui tout seul. Il se découvre le maître prédestiné de ce monde, il l'asservit. Il s'établit entre le monde et lui un rapport appropriatif. Mais il existe des valeurs qui ne s'accommodent qu'à ma sauce. En magicien, je vole au blanc un certain monde pour lui et les siens perdus. Ce jour-là, le blanc dut ressentir un choc en retour qu'il ne put identifier, étant tellement peu habitué à ses réactions. C'est que, au-dessus du monde, objectif des terres et des bananiers ou éveas, j'avais délicatement institué le véritable monde. L'essence du monde était mon bien. Entre le monde et moi s'établissait un rapport de coexistence. J'avais retrouvé l'un primordial. Mes mains sonores dévoraient la gorge hystérique du monde. Le blanc eut l'impression pénible que je lui échappais et que j'emmenais quelque chose avec moi. Il me fouilla les poches, passa la sonde dans la moins dessinée de mes circonvolutions. Partout, c'était du connu. Or, c'était évident, je possédais un secret. On m'interrogea, me détournant d'un air mystérieux, je murmurai: Toko Wali, mon oncle, te souviens-tu des nuits de jadis, quand s'appesantissait sur ma tête, sur ton dos de patience, ou que me tenant par la main, ta main me guidait par ténèbres et cygnes, les champs sont fleurs de vert luisants, des étoiles se posent sur les herbes, sur les arbres, c'est le silence alentour, seuls bourdonnent les parfums de brousse, ruches d'abeilles rousses qui dominent la vibration grêle des grillons. Et tam-tam voilé, la respiration au loin de la nuit. Toi, Toko Wali, tu écoutes l'inaudible et tu m'expliques ce que disent les ancêtres dans la sérénité marine des constellations, le taureau, le scorpion, le léopard, l'éléphant et les poissons familiers, et la pompe lactée des esprits par le temps céleste qui ne finit point. Mais voici l'intelligence de la déesse lune et que tombent les voiles des ténèbres. Nuit d'Afrique, ma nuit noire, mystique et claire, noire et brillante. Je me faisais le poète du monde. Le blanc avait découvert une poésie qui n'avait rien de poétique. L'âme du blanc était corrompue et, comme me le disait un ami qui enseignait aux États-Unis, les nègres en face des blancs constituent en quelque sorte l'assurance sur l'humanité. Quand les blancs se sentent par trop mécanisés, ils se tournent vers les hommes de couleur et leur demandent un peu de nourriture humaine. Enfin, j'étais reconnu, je n'étais plus un néant. Je devais vite déchanter. Le blanc, un instant interloqué, m'exposa que génétiquement, je représentais un stade. Vos qualités ont été épuisées par nous. Nous avons eu des mystiques de la terre comme vous n'en connaîtrez jamais. Penchez-vous sur notre histoire, vous comprendrez jusqu'où est allée cette fusion. J'eus alors l'impression de répéter un cycle. Mon originalité m'était extorquée. Je restai longtemps à pleurer. Et puis je me remis à vivre, mais j'étais hanté par une série de formules dissolvantes. L'odeur sui generis, l'odeur du nègre, la bonhomie du nègre, la naïveté du nègre. J'avais essayé de m'évader par la bande, mais les blancs m'étaient tombés dessus et m'avaient coupé le jarret gauche. J'arpentais les limites de mon essence, en n'en pas douter, c'était assez maigre. C'est à ce niveau que se situe ma découverte la plus extraordinaire. Cette découverte est, à proprement parler, une redécouverte. Je fouillais vertigineusement l'Antiquité noire. Ce que j'y découvris me laissa pantelant. Dans son livre sur l'abolition de l'esclavage, Schwelcher nous apportait des arguments péremptoires. Depuis lors, Frobenius, Westermann, De La Fosse, tous blancs, Firkorus, Ségou, Djéné, ville de plus de 100 000 habitants, on parla de docteurs noirs, docteurs en théologie, qui allaient à la Mecque discuter du Coran. Tout cela exhumé, étalé, viscère au vent, me permit de retrouver une catégorie historique valable. Le blanc s'était trompé. Je n'étais pas un primitif, pas davantage un demi-homme. J'appartenais à une race qui, il y a de cela 2000 ans, travaillait déjà l'or et l'argent. Et puis, il y avait autre chose que ne pouvait comprendre le blanc. Écoutez. Quels étaient donc ces hommes qu'une sauvagerie insurpassée au cours des siècles arrachait ainsi à leur pays, à leur dieu, à leur famille? Des hommes doux, polis, courtois, supérieurs assurément à leurs bourreaux. Ce ramassis d'aventuriers qui brisaient, violaient, insultaient l'Afrique pour mieux la dépouiller. Ils savaient bâtir des maisons, administrer des empires, construire des villes, cultiver les champs, fondre le minerai, tisser le coton, forger le fer. Leur religion était belle, faite de mystérieux contacts avec le fondateur de la cité. Leurs mœurs agréables, fondées sur la solidarité, la bienveillance, le respect de l'âge. Aucune coercition, mais l'entraide, la joie de vivre, la discipline librement consentie. Ordre, intensité, poésie et liberté. De l'individu sans angoisse au chef presque fabuleux, une chaîne continue de compréhension et de confiance. Pas de science, certes, mais ils avaient pour les protéger de la peur, des grands mythes où l'observation la plus fine et l'imagination la plus hardie s'équilibraient et se fondaient. Pas d'ARTV, ils avaient leur magnifique sanctuaire où l'émotion humaine n'explose jamais si farouchement qu'elle n'organise selon les obsédantes lois du rythme les grands plans d'une matière sommée de capter pour les redistribuer les forces les plus secrètes de l'univers. Des monuments en plein cœur de l'Afrique, des écoles, des hôpitaux, pas un bourgeois du XXe siècle, pas un Durand, un Smith ou un Brown qui en soupçonne l'existence dans l'Afrique d'avant les Européens. Mais Schwelcher en signale l'existence d'après Caillé, Molien, les frères Kander, et s'il ne signale nulle part que lorsque les Portugais débarquèrent sur les rives du Congo en 1498, ils y découvrirent un état niche et florissant, et qu'à la cour d'Ambas, les grands étaient vêtus de soie et de brocart. Il sait du moins que l'Afrique s'est élevée d'elle-même à une conception juridique de l'État, et il soupçonne, en plein siècle d'impérialisme, qu'après tout, la civilisation européenne n'est qu'une civilisation parmi les autres, et pas la plus tendre. Je remettais le blanc à sa place, enhardi, je le bousculais, et lui jetais à la face, accommodez-vous de moi, je ne m'accommode de personne, je ricanais à pleine étoile. Le blanc, c'était visible, grondait. Son temps de réaction s'allongeait indéfiniment. J'avais gagné, j'exultais. Laissez là votre histoire, vos recherches sur le passé, et essayez de vous mettre à notre rythme. Dans une société comme la nôtre, industrialisée à l'extrême, scienticisée, il n'y a plus de place pour votre sensibilité. Il faut être dur pour être admis à vivre. Il ne s'agit plus de jouer le jeu du monde, mais bien de l'asservir à coups d'intégrales et d'atomes. Bien sûr, me disait-on, de temps à autre, quand nous serons fatigués de la vie de nos buildings, nous irons à vous comme à nos enfants, vierges, étonnées, spontanées. Nous irons à vous comme à l'enfance du monde. Vous êtes si vrai dans votre vie, c'est-à-dire si badin. Abandonnons pour quelques instants notre civilisation cérémonieuse et polie et penchons-nous sur ces têtes, ces visages adorablement expressifs en un sens. Vous nous réconciliez avec nous-mêmes. Ainsi, à mon irrationnel, on opposait le rationnel. À mon rationnel, le véritable rationnel, à tous les coups, je jouais perdant. J'expérimentais mon hérédité. Je fis un bilan complet de ma maladie. Je voulais être typiquement nègre, ce n'était plus possible. Je voulais être blanc, il valait mieux en rire. Et quand j'essayais, sur le plan de l'idée et de l'activité intellectuelle, de revendiquer ma négritude, on me l'arrachait. On me démontrait que ma démarche n'était qu'un terme dans la dialectique, mais il y a plus grave, le nègre, nous l'avons dit, se crée un racisme antiraciste. Il ne souhaite nullement dominer le monde, il veut l'abolition des privilèges ethniques, d'où qu'ils viennent, Il affirme sa solidarité avec les opprimés de toutes couleurs. Du coup, la notion subjective, existentielle, ethnique de négritude passe, comme dit Hegel, dans celle objective, positive, exacte de prolétariat. Pour Césaire, dit Senghor, le blanc symbolise le capital, comme le nègre le travail. À travers les hommes à peau noire de sa race, c'est la lutte du prolétariat mondial qu'il chante. C'est facile à dire, moins facile à penser. Et sans doute, ce n'est pas par hasard que les chantres les plus ardents de la négritude sont en même temps des militants marxistes. Mais cela n'empêche que la notion de race ne se recoupe pas avec celle de classe. Celle-là est concrète et particulière, celle-ci universelle et abstraite, l'une ressortie à ce que Jaspers nomme compréhension et l'autre à l'intellection, la première est le produit d'un syncrétisme psychobiologique et l'autre est une construction méthodique à partir de l'expérience. En fait, la négritude apparaît comme le temps faible d'une progression dialectique, l'affirmation théorique et pratique de la suprématie du blanc et la thèse. La position de la négritude comme valeur anti-éthique est le moment de la négativité. Mais ce moment négatif n'a pas de suffisance par lui-même et les Noirs qui en usent le savent fort bien. Ils savent qu'il vise à préparer la synthèse ou réalisation de l'humain dans une société sans race. Ainsi, la négritude est pour se détruire. Et les passages et non l'aboutissement, moyen et non fin dernière. Quand je lus cette page de Sartre, Orphée noir, je sentis qu'on me volait ma dernière chance. Je déclarai à mes amis, la génération des jeunes poètes noirs vient de recevoir un coup qui ne pardonne pas. On avait fait appel à un ami des peuples de couleur, et cet ami n'avait rien trouvé de mieux que montrer la relativité de leur action. Pour une fois, cet Hegélien né avait oublié que la conscience a besoin de se perdre dans la nuit de l'absolu, seule condition pour parvenir à la conscience de soi. Contre le rationalisme, il rappelait le côté négatif, mais en oubliant que cette négativité tire sa valeur d'une absoluité quasi substantielle. La conscience engagée dans l'expérience ignore, doit ignorer les essences et les déterminations de son être. Orphée noir est une date dans l'intellectualisation de l'exister noir. L'erreur de Sartre a été non seulement de vouloir aller à la source, mais en quelque façon de tarir cette source. La source de la poésie tarira-t-elle? Oui, ou bien le grand fleuve noir coulera-t-il malgré toute la mer dans laquelle il se jette? Il n'importe, à chaque époque sa poésie, à chaque époque les circonstances de l'histoire élisent une nation, une race, une classe pour reprendre le flambeau. En créant des situations qui ne peuvent s'exprimer ou se dépasser que par la poésie, et tantôt l'élan poétique coïncide avec l'élan révolutionnaire, tantôt ils divergent, saluons aujourd'hui la chance historique qui permettra aux Noirs de pousser, d'une telle raideur, le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées. Césaire. Et voilà, ce n'est pas moi qui me crée un sens, mais c'est le sens qui était là, préexistant, m'attendant. Ce n'est pas avec ma misère de mauvais nègre, mes dents de mauvais nègre, ma faim de mauvais nègre, que je modèle un flambeau pour y foutre le feu afin d'incendier ce monde. Mais c'est le flambeau qui était là, attendant cette chance historique. En termes de conscience, la conscience noire se donne comme densité absolue, comme pleine d'elle-même, étape préexistence à toute fente, à toute abolition de soi par le désir. Jean-Paul Sartre, dans cette étude, a détruit l'enthousiasme noir contre le devenir historique. Il y avait à opposer l'imprévisibilité. J'avais besoin de me perdre dans la négritude absolument. Peut-être qu'un jour, au sein de ce romantisme malheureux, en tout cas j'avais besoin d'ignorer, cette lutte, cette redescente devait revêtir un aspect achevé. Rien de plus désagréable que cette phrase « Tu changeras, mon petit, quand j'étais jeune, moi aussi, tu verras, tout passe. » La dialectique qui introduit la nécessité au point d'appui de ma liberté m'expulse de moi-même. Elle rompt ma position irréfléchie, toujours en termes de conscience. La conscience noire est immanente à elle-même. Je ne suis pas une potentialité de quelque chose, je suis pleinement ce que je suis. Je n'ai pas à rechercher l'universel. En mon sein, nulle probabilité ne prend place. Ma conscience nègre ne se donne pas comme manque. Elle est adhérente à elle-même, mais, nous dira-t-on, il y a dans vos affirmations méconnaissance du processus historique. Écoutez donc. Afrique, j'ai gardé ta mémoire Afrique, tu es en moi, comme les chardes dans la blessure, comme un fétiche tutélaire au centre du village. Fais de moi la pierre de la fronde, de ma bouche les lèvres de ta plaie, de mes genoux les colonnes brisées, de ton abaissement. Pourtant, je ne veux être que de votre race, ouvrier paysan de tous les pays, ouvrier blanc de Détroit, péon noir d'Alabama, peuple innombrable des galères capitalistes, le destin nous dresse épaule contre épaule, et reniant l'antique maléfice des tabous du sang, nous foulons les décombres de nos solitudes. Si le torrent est frontière, nous arracherons au ravin sa chevelure intarissable. Si la Sierra est frontière, nous briserons la mâchoire des volcans, affirmant les cordillères, et la plaine sera l'esplanade d'aurore où rassembler nos forces écartelées. Par la ruse de nos maîtres, comme la contradiction des traits se résout en l'harmonie du visage, nous proclamons l'unité de la souffrance et de la révolte de tous les peuples sur toute la surface de la terre, et nous brassons le mortier de temps fraternel dans la poussière des idoles. Jacques Roumain, Bois d'Ébène. Justement, répondrons-nous, l'expérience nègre est ambiguë, car il n'y a pas un nègre mais des nègres. Quelle différence, par exemple, avec cet autre poème? Le blanc a tué mon père, car mon père était fier. Le blanc a violé ma mère, car ma mère était belle. Le blanc a courbé mon frère sous le soleil des roues, car mon frère était fort. Puis le blanc a tourné vers moi, ses mains rouges de sang, m'a craché noir son mépris au visage, et de sa voix de maître, hey boy, un berger, une serviette, de l'eau. David Diop, trois poèmes. Et cet autre. Mon frère, aux dents qui brillent, sous le compliment hypocrite, mon frère, aux lunettes d'or, sur tes yeux rendus bleus par la parole du maître, mon pauvre frère au smoking à revers de soie, pillant et susurrant et plastronnant dans les salons de la condescendance, tu nous fais pitié. Le soleil de ton pays n'est plus qu'une ombre, sur ton front serein de civilisé, et la case de ta grand-mère fait rougir un visage blanchi par tes années d'humiliation et de mea culpa. Mais lorsque repu de mon sonore est vide, comme la caisse qui surmonte tes épaules, tu fouleras la terre, amère et rouge d'Afrique. Ces mots angoissés rythmeront, alors ta marche inquiète. Je me sens si seul ici, David Diop, le renégat. De temps à autre, on a envie de s'arrêter, exprimer le réel et choses ardues. Mais quand on se met en tête de vouloir exprimer l'existence, on risque de ne rencontrer que l'inexistant. Ce qui est certain, c'est qu'au moment où je tente une saisie de mon être, Sartre qui demeure l'autre, en me nommant, m'enlève toute illusion. Alors que je lui dis, ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel, elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Alors que moi, au paroxysme du vécu et de la fureur, je proclame, il me rappelle que ma négritude n'est qu'un temps faible. En vérité, je vous le dis, mes épaules ont glissé de la structure du monde, mes pieds n'ont plus senti la caresse du sol. Sans passé nègre, sans avenir nègre, il m'était impossible d'exister ma négrerie, pas encore blanc, plus tout à fait noir, j'étais un damné. Jean-Paul Sartre a oublié que le nègre souffre dans son corps autrement que le blanc. Note. Si les études de Sartre sur l'existence d'autrui demeurent exactes, dans la mesure où nous le rappelons, où l'être et le néant décrivent une conscience aliénée, leur application à une conscience nègre se révèle fausse. C'est que le blanc n'est pas seulement l'autre, mais le maître réel ou imaginaire d'ailleurs. Fin de la note. Entre le blanc et moi, il y a irrémédiablement un rapport de transcendance. Mais on a oublié la constance de mon amour. Si je me définis comme tension absolue d'ouverture, et je prends cette négritude, et les larmes aux yeux, j'en reconstitue le mécanisme, ce qui avait été mis en pièces, et par mes mains, liane, intuitive, rebâtie, édifiée. Puis, violente, retentit ma clameur, je suis un nègre, je suis un nègre, je suis un nègre. Et c'est mon pauvre frère, vivant à l'extrême sa névrose, qui se découvre paralysé. Le nègre, je ne peux pas, madame. Lizzie. Quoi? Le nègre. Je ne peux pas tirer sur les blancs. Lizzie. Vraiment? Ils vont se gêner, eux. Le nègre. Ce sont des blancs, madame. Lizzie. Et alors? Parce qu'ils sont blancs, ils ont le droit de te saigner comme un cochon. Le nègre. Ce sont des blancs. Sentiment d'infériorité? Non. Sentiment d'inexistence. Le péché est nègre comme la vertu est blanche. Tous ces blancs réunis, le revolver au poing, ne peuvent pas avoir tort. Je suis coupable, je ne sais pas de quoi, mais je sens que je suis un misérable. Le nègre. C'est comme ça, madame. C'est toujours comme ça avec les blancs. Lizzie. Toi aussi, tu te sens coupable? Le nègre. Oui, madame. C'est Bigger Thomas qui a peur, une peur affreuse. Il a peur, mais de quoi a-t-il peur? De lui-même. On ne sait pas encore qui il est, mais il sait que la peur habitera le monde quand le monde saura. Et quand le monde sait, le monde attend toujours quelque chose du nègre. Il a peur que le monde sache, il a peur de la peur qui serait celle du monde si le monde savait. Comme cette vieille femme qui nous supplie à genoux de l'attacher à son lit. Je sens, docteur, à tout instant cette chose qui me prend. Quelle chose? L'envie de me suicider. Attachez-moi, j'ai peur. À la fin, Bigger Thomas agit. Pour mettre fin à la tension, il agit. Il répond à l'attente du monde. C'est le personnage de If He Hollers, Let Him Go, qui fait justement ce qu'il ne voulait pas faire. Cette grosse blonde qui lui barre la route à tout moment, défaillante, sensuelle, offerte, ouverte, craignant, souhaitant le viol, à la fin devient sa maîtresse. Le nègre est un jouet entre les mains du blanc. Alors, pour rompre ce cercle infernal, il explose. Impossible d'aller au cinéma sans me rencontrer. Je m'attends à l'entracte juste avant le film. Je m'attends. Ceux qui sont devant moi me regardent, m'épient, m'attendent. Un nègre roux va apparaître. Le cœur me tourne la tête. L'estropié de la guerre du Pacifique dit à mon frère, accommode-toi de ta couleur comme moi de mon moignon. Nous sommes tous deux des accidentés. Pourtant, de tout mon être, je refuse cette amputation. Je me sens une âme aussi vaste que le monde, véritablement une âme profonde comme la plus profonde des rivières. Ma poitrine a une puissance d'expansion infinie. Je suis don et l'on me conseille l'humanité de l'infirme. Hier, en ouvrant les yeux sur le monde, je vis le ciel de part en part se révulser. Je voulus me lever, mais le silence éviscéré reflua vers moi. Ses ailes paralysées, irresponsables à cheval entre le néant et l'infini, je me suis mis à pleurer.